15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Je m'appelle Alexis, je suis journaliste et j'ai 29 ans. Si vous avez bien écouté l'épisode 1, vous vous souvenez certainement que l'idée d'avoir 30 ans m'angoisse plutôt pas mal. C'est d'ailleurs un peu pour cette raison que je me suis lancée dans la réalisation de ce podcast. Et j'espère bien qu'à la fin du compte, je changerai d'avis et que j'adorerai ma trentaine. Mais avant que ça arrive, il nous reste encore quelques petites choses à aborder, comme la pression sociale par exemple, comme quoi il faudrait tout avoir à 30 ans, ou encore cet entre-deux générationnel dans lequel se trouvent les millennials. Seulement 30 ans, un podcast produit par Radio Campus Besançon et réalisé par Alexis Le Corollaire. Épisode 2, Horloge.
Il y a quelque chose qui revient, c'est toujours cette fameuse pression sociale.
Amélie Osier est créatrice du podcast Avoir 30 ans. Et elle le dit. Quand on écoute les épisodes, les témoignages derrière les micros, ce qui revient le plus souvent lorsque l'on parle de la trentaine, c'est la pression sociale. Celle qui nous suggère qu'à 30 ans, on est censé tout avoir. Un emploi stable, le mariage, la maison ou encore les enfants.
D'un côté, c'est la pression des pères, donc des gens qui avancent avec moi, chacun à son rythme et tout. Mais il y a certaines personnes qui s'avancent un peu plus. Et là, on a l'impression d'être en difficulté.
David, 30 ans.
Mais après, on a la pression aussi de la famille. Tes parents qui te disent « Ok, c'est pour quand le mariage ? C'est pour quand le petit enfant ?» Ça met une pression de fou. C'est horrible parce qu'on s'est dit « Ouais, je veux que mes parents soient fiers de moi, mais je ne suis pas en condition de me marier, je n'ai pas l'argent pour contribuer au développement d'une autre personne que ce serait mon enfant. Je n'ai pas les moyens et je veux lui donner une bonne vie, quoi, une vie... avec tout ce dont il a besoin, mais j'ai pas les moyens pour offrir ça. Donc il y aura forcément pas de petits enfants. Et là, il y a les parents, la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes qui te disent à chaque rencontre en famille, à chaque repas en famille, hey, c'est pour quand le mariage, c'est pour quand le petit enfant. C'est horrible. Récemment, on a fait un appel vidéo avec ma mère. Elle sait que j'ai une copine maintenant. Et du coup, elle me pose la question. Elle me dit « Ah ouais, et voilà, maintenant que tu es en couple et tout, c'est pour quand la petite fille ?» Là, j'avoue, je me suis fâché un peu. Je lui ai dit « Bah, maman, écoute, il n'y aura peut-être même pas de petite fille. J'ai pas envie d'avoir d'enfant. » C'est juste une copine, je dois lui demander aussi si elle veut avoir des enfants. C'est pas ma décision à moi. Et après, je lui dis, faut que tu arrêtes à un moment donné. On va pas faire des enfants comme avant. Et je pense qu'elle l'a pas trop bien pris au début. Mais on a continué à parler, je lui ai expliqué mes raisons et tout. Je pense qu'elle a compris, mais... Je suis sûr qu'il va recommencer à un moment donné, dans quelques semaines.
Il y a la pression sociale, la pression familiale, mais pas seulement. C'est ce que m'a expliqué Amélie.
On voit bien qu'il y a aussi l'aspect écologique, par exemple, qui rentre en compte. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours sur le fait qu'il y a de moins en moins de naissances, et il n'y a jamais eu aussi peu de naissances que depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça vient pas uniquement du fait qu'on fait des enfants plus tard, ça vient du fait qu'on remet en question le modèle de la maternité, est-ce qu'aujourd'hui avoir un enfant, c'est un coût économique, c'est un coût écologique, c'est un coût, en tout cas c'est une charge mentale, donc je pense que les gens réfléchissent, ils ont remis en question ce modèle de faire famille qu'on nous a toujours enseigné.
Quand on voit la gueule du monde aujourd'hui, avoir des enfants... Ah, on se pose quand même des questions.
Et voici le point de vue de Romain sur la question, et il a 31 ans.
Le truc qui a changé avec la trentaine aussi, c'est qu'il y a quelques années, je ne pensais pas du tout aux enfants. C'est vrai que maintenant, comme je viens de le dire, avec le monde dans lequel on est, on n'a pas forcément des enfants à cause de ça. Mais d'un autre côté, il y a ce petit côté égoïste qui donne quand même envie d'avoir sa progéniture. Mais voilà, sinon, on n'a pas de pression particulière.
De son côté, Rose, 22 ans, même si elle ne le dit pas concrètement, nous parle plutôt de l'horloge biologique.
En vraiment, ça me fait peur parce que là, je me dis, je serais pas du tout prête à avoir un enfant. Mais c'est vrai qu'avant, les enfants, ils se faisaient très jeunes, donc entre 20 et 30 ans en général. Et il y a aussi ce côté que j'ai dans la tête où plus tu fais ton enfant jeune, plus tu vas être proche de lui. En plus, il y a le côté où, au bout d'un moment, t'es une femme, tu peux plus forcément avoir d'enfant. Et là, moi, je suis encore une enfant dans ma tête, mais vraiment une enfant. Et je me dis, même dans 5 ans, en fait, pour moi, je vais pas grandir plus que ça mentalement, et j'ai pas forcément envie de le faire non plus, sauf que du coup pour être prête à avoir un enfant, il faut forcément le faire, et du coup je trouve ça un peu stressant quand même, parce qu'il y a le côté où si je l'ai très tard, je serai moins proche, et il y a le côté où en même temps, que ce soit de manière au niveau des responsabilités ou au niveau de tout ça, je suis pas prête quoi, donc moi je trouve ça angoissant un peu.
100% des personnes qui sont mes clientes et 99% des personnes qui me suivent sur Insta sont des femmes, et je pense vraiment que cette pression, en fait, elle est tout simplement liée à l'horloge biologique. C'est 30 ans, c'est pas 35 ans, c'est pas 40 ans.
Ambre Arcangeli, coach de vie spécialisée dans la crise de la trentaine.
Parce qu'il y a cette pression de l'horloge biologique, en fait. Enfin, pas cette pression, mais cette réalité, parce que ça reste une réalité quand même. Ça part de là, mais après, ça va impacter plein de choses, en fait. C'est pas juste l'horloge biologique, c'est l'horloge biologique, donc il faut que je sois casée avec un mec bien. C'est l'horloge biologique, donc il faut que j'ai un bon job pour subvenir aux besoins de ma future famille. Il y a l'horloge biologique, donc il faut que que je fasse un prêt pour acheter une maison, pour pouvoir héberger ma famille. C'est ma petite analyse, en tout cas, que j'ai pu faire de la racine de cette pression. C'est, ok, à 30 ans, il faut que tu te poses, il faut que tu commences à penser bébé. Et c'est un peu toxique parce que c'est pas forcément à 30 ans, t'as peut-être pas forcément envie de ça. On remet jamais en question nos envies aussi d'avoir des enfants, alors que peut-être c'est pas le cas en fait. Et du coup, on est très peu informé sur les alternatives, la congélation des ovocytes, tout ça. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça, la racine de cette pression de 30 ans.
Et au final, aujourd'hui, il y a des femmes qui, par exemple, ne veulent pas d'enfants, qui ne veulent pas de CDI.
Amélie Osier, créatrice du podcast Avoir 30 ans.
Qui veulent changer de pays, qui veulent se reconvertir, qui veulent abandonner les études ou le métier qu'elles avaient pour faire totalement autre chose, qui ont exploré leur sexualité, etc. Et c'est plein de choses qu'elles ont pu découvrir à la trentaine avec une certaine maturité, avec laquelle certainement elles étaient freinées avant à cause de la pression sociale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui veulent rester célibataires ou qui du moins ne veulent plus avoir un certain rôle à la maison, veulent diminuer la charge mentale qui leur incombe et qui est sur leurs épaules. On le sait, c'est trouver sa place avec les évolutions de notre société.
Il n'y a pas que le fait d'avoir des enfants ou non qui peut nous angoisser lorsque l'on tourne autour de la trentaine. C'est aussi le début des changements physiques. Et ça, j'en ai parlé avec Rose.
Moi, je trouve que de toute manière, sur tous les sujets, la pression, elle est toujours plus forte pour les femmes, surtout sur le côté physique. Déjà, j'ai eu ma première ride cet été. Je le vis extrêmement mal. J'y pense tous les matins, toutes les nuits quand je dors. Voilà. Et ensuite, j'ai une anecdote parce qu'il y a 2 semaines, je suis allée chez ma coiffeuse qui m'a dit « Rose, t'as énormément de cheveux blancs. » Et elle m'a dit « Je veux pas t'inquiéter, mais prépare-toi mentalement parce que dans 5-6 ans, t'en auras vraiment partout et dans 10 ans, tous tes cheveux sont blancs. » Donc elle m'a dit « Faut commencer à y penser, arrête de les arracher. » Et j'ai bien sûr continué à les arracher depuis que ma coiffeuse m'a dit ça parce que ça m'a créé énormément d'angoisse. Et depuis, c'est un de mes sujets de conversation préférés de parler de ce que m'a dit ma coiffeuse parce que je trouve ça horrible. J'ai toujours 16 ans dans ma tête, donc vraiment pour moi c'est inconcevable que j'ai des cheveux blancs. Et j'ai pas du tout envie de commencer à me colorer les cheveux tout le temps pour plus avoir des cheveux blancs. Enfin en fait je trouve ça hyper angoissant. Vraiment je trouve ça angoissant, ouais. Mais par contre, à ce niveau-là, je trouve que les hommes sont extrêmement angoissés de leur calvitie. Pour en avoir parlé avec tous les mecs de ma famille, enfin mon frère, il est au bout de sa vie depuis qu'il a une calvitie, il quitte pas sa casquette. Enfin, en vrai, les hommes, la calvitie, pour le coup, ils le vivent mal. Et ils ont quand même un plus gros souci que nous, c'est-à-dire que nous, au pire, les cheveux blancs, on se teint les cheveux. Eux, c'est un peu plus compliqué. Enfin, faut faire des implants et tout, c'est un peu plus galère. Mais c'est vrai que de toute manière, la pression sera toujours plus forte pour une femme, que ce soit au niveau de son corps, etc. Le corps des hommes est moins critiqué, je trouve, que le corps des femmes.
Maintenant, je vous propose qu'on prenne un peu de conseils positifs auprès de personnes qui ne se prennent pas la tête avec leur âge, comme Romain ou Pauline.
C'est un peu chacun à sa sauce. Il y a des gens qui arrivent à 30 ans, qui se disent « Voilà, j'ai 30 ans, faut que j'ai les enfants, la maison, faut que ma vie soit bien rangée. » Alors attention, je dis pas que ma vie est bordélique, loin de là, mais voilà, je me mets pas la pression, je vis ma vie tranquillement. Et l'âge, faut profiter de la vie et faut pas se prendre la tête avec l'âge qu'on a.
Je pense que c'est juste une question de se libérer des idéaux entre guillemets qu'on a. Genre, j'ai jamais voulu vivre trop dans ce truc-là. Enfin, j'ai 23 ans, j'ai toujours pas le permis. Et en soi, genre, c'est pas une nécessité absolue pour moi. Et je sais qu'il y en a certaines personnes qui peuvent juger ça, mais en soi, après, chacun fait sa vie comme il veut. Enfin, il n'y a pas d'étape à franchir, entre guillemets, avant ses 30 ans ou après. Enfin.
Et sinon, ben, on n'a qu'à mentir un petit peu, comme Rose.
Dans ma tête, j'aurais toujours 20 ans, pour le coup. Quand on me posait la question, c'est hyper dur pour moi de dire 22, ça m'embête, et dès que je peux, je mens, et du coup, je dis que j'ai 20 ans. Et j'imagine que je pense que je vais faire ça jusqu'à mes 30 ans, parce que ouais, pour moi, c'est une angoisse, donc en vrai, j'y pense pas, j'imagine pas, et voilà.
Là, on a beaucoup parlé de la pression sociale, que ce soit sur le fait d'avoir des enfants ou non, que ce soit sur les changements physiques, mais il y a encore quelque chose qui me titille un petit peu. C'est l'entre-deux générationnel. Je l'ai déjà un petit peu abordé, mais les bébés nés entre les années 80 et 1995 sont des millennials. La génération de mes parents, c'est la gène X, et celle après nous, c'est la gène Z. Je ne sais pas vous, mais moi je me sens parfois un peu perdue entre les différents courants de pensée de ces générations. Je me suis aperçue que je n'étais pas la seule lorsque j'en ai discuté avec Amélie.
Il y a aussi toute une remise en question de la génération de ceux qui ont aujourd'hui 15-20 ans, qui remettent en cause, qui s'inquiètent pour l'aspect écologique, le réchauffement climatique, pour le fait de vouloir donner un sens au travail, un sens à ce qu'ils font, pour une nouvelle construction de la famille. Et nous, on est un peu coincés entre cette génération-là qui veut changer beaucoup de choses, qui veut apporter de la nouveauté, de l'inclusivité, et la génération de nos parents qui nous ont inculqué, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi j'ai grandi, et beaucoup de mes amis pareil, avec ce fameux « travaille bien l'école, fais des bonnes études, après t'auras un bon métier, après t'auras un bon salaire, et du coup tu seras heureux et t'auras réussi ta vie ». Sauf que dans les faits, ça se passe pas vraiment comme ça, on peut très bien avoir un bon salaire mais avoir un job hyper ennuyeux, on peut avoir un job passionnant mais ne pas avoir envie de faire une carrière fulgurante, ne pas avoir envie de fonder, on va dire, la famille nucléaire classique. Donc voilà, on remet un peu en question ce que nos parents nous ont dit, et en même temps, on voit la nouvelle génération des 15-20 ans qui, elle, balaye un peu tout ça. Donc je dirais qu'on est coincé entre les deux, et c'est pour ça que certaines personnes doivent avoir le sentiment de traverser une crise où on est un peu perdu.
Ma crise, elle se trouve un peu là aussi, mais également dans les moments où je comprends que je n'ai plus 20 ans. Et que ça y est, c'est fini. Il y a certaines choses que je ne comprendrai plus jamais. Ça, j'en ai longuement discuté avec David.
La première fois que j'ai ressenti cette différence entre les générations, c'était quand je travaillais à la fac au Chili. J'avais 27 ans et je travaillais avec des jeunes adultes, 20, 22, 23. Là, si on y réfléchit, on se dit, il n'y a pas autant d'écart entre 23 et 27 ans. Mais juste dans la façon de s'exprimer, parfois, je comprenais pas. J'arrivais pas à comprendre ce qu'ils voulaient dire, les expressions qu'ils utilisaient, les mots. Et là, par exemple, je me suis habitué. Mais maintenant que je me retrouve avec des collégiens, je trouve que c'est encore plus compliqué de se dire « Mais qu'est-ce que tu racontes là, avec tes mots, tes dires et tout ?» Parfois, je comprends pas. Eux, ils inventent leur propre langue pour pouvoir communiquer avec les autres. Et c'est là où on se dit « Ouais, je suis complètement désactualisé de ce qui se passe aujourd'hui. » Mais c'est très intéressant. Je trouve que c'est très stimulant aussi pour continuer à apprendre. Parce qu'on est obligé à s'informer tout le temps. On est obligé à continuer à trouver ce qui est dans l'actualité, ce qui se passe dans l'actualité. Par exemple, connaître les noms des jeux vidéo, connaître le nom des chansons, des chanteurs, être au courant de ce qui se passe dans le monde et dans leur pays d'origine, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur tête, quoi. Donc, il y a un écart énorme au niveau de la compréhension, mais c'est justement ça ce qui nous permet d'apprendre, de communiquer.
Alors, moi, j'ai commencé une nouvelle carrière. Je suis intervenante à l'IUT de Besançon.
Pas le dire à la radio.
Bonjour, c'est pas grave. Et du coup, j'ai des élèves beaucoup plus jeunes, en troisième année, donc j'apprends le langage jeune. Donc je deviens, on va dire, boumeuse. Et il y en a une, elle m'explique un truc. On parle de DJ Mehdi, je lui demande un peu de me faire une critique rapide pour avoir son avis. Puis voilà, je crois que ça m'intéressait d'avoir son point de vue, quoi. Et elle me dit, ouais, là, il a fait un TB, et puis c'est trop bien, quoi, ça s'est trop bien passé. Il a fait TB.
Il a fait TB, alors attends, il a fait TB.
Il a fait TB.
On dirait très bien, mais...
Bah, je pensais ça aussi, donc je la regarde, je fais, ça veut dire quoi? Il a fait TV, il a fait très bien, elle me fait. Et là, déjà, elle était choquée, elle dit, oh, pardon, je l'ai dit à voix haute. Enfin, je me rends plus compte, je le dis. Je dis, non, mais c'est pas grave, juste explique-moi. Elle me dit, bah, t'as repeint bordel. Et là, je dis, quoi? Bah, t'as repeint bordel. Ouais, tu vois,
t'as repeint bordel. Ouah, mais là, ça devient, non. Ouais. On dit stop.
Stop.
La voix que vous entendez est celle de Lisa, animatrice de l'émission Corcovado sur Radio Campus Besançon. Un soir, alors que j'étais tranquille dans ma voiture en train de conduire, j'écoutais la radio et je suis tombée sur ces mots. Et ils ont résonné en moi très rapidement. Alors, j'ai voulu revenir dessus avec elle.
Alors, c'était mon tout premier cours avec LE. Et franchement, ils étaient pleins à avoir un langage que je n'avais pas et je leur demandais de se présenter et dire les dernières choses qu'ils avaient vues à la télé ou en ligne, parce qu'ils ne regardent plus la télé de toute façon. Et c'est là que du coup, elle a parlé de DJ Mehdi, qu'elle avait regardé la mini-série Arte. Et du coup, moi, je lui dis, ah bah viens, on va parler un peu. Ça fait partie de mon cours, la communication culturelle. Donc, qu'est-ce que tu veux en dire? Qu'est-ce que tu peux critiquer dessus? Et là, elle a utilisé que des mots que je connaissais pas. Et je me suis dit, bon, en fait, ouais, ça y est. J'ai switché. Et tout le monde était un peu hilar de ce qu'elle sortait. Et tout le monde a vu que je ne comprenais pas, qu'il y avait vraiment l'écart. Et surtout, je me souviens, je leur ai dit, voilà, on peut se tutoyer, on n'a pas beaucoup d'années d'écart. Puis en fait, je regarde le papier, ben si, on a 15 ans d'écart. Donc, soit c'est moi, je suis restée coincée à mes 20 ans, ou soit je ne me rends pas trop compte que... Enfin, en fait, dans les deux cas, ça veut dire la même chose. En fait, je me dis que le problème, il vient de moi. Que j'ai pas évolué depuis l'âge, parce que j'ai été élève à l'IUT, et de me retrouver à la place du prof et de leur parler, bon, déjà je me suis sentie un peu grandir, je me suis dit c'est bien, je suis une adulte, mais en fait je suis censée être une adulte depuis 10 ans, et là je l'ai compris à ce moment-là, je me suis dit en fait je suis plus du tout dans la même cour.
Parfois on dit des choses qui peuvent ressembler aux boomers, parfois en même temps on veut expliquer à nos parents ou à la génération qu'on considère comme boomer, bah, que le monde a changé et qu'on veut pas plus garder la société telle que eux l'avaient fait.
Amélie Osier, créatrice du podcast Avoir 30 ans.
Donc voilà, c'est à la fois une période de transition, à la fois une période où on peut être un peu perdu entre ce qu'on nous a appris et ce qu'on veut faire.
Joyeux anniversaire. 30 ans, putain. Yeah. 1. Ok. L'aiguille tourne, y a rien à faire pour la faire reculer. Ça y est, je suis plus vieux que mes parents le jour où je suis né. Wow, je vais commencer en me présentant. Je m'appelle Florian Ordonès, aujourd'hui j'ai 30 ans. Je pensais qu'être adulte arrivait comme une évidence. Un jour tu te lèves et t'as toutes les réponses à ton existence. Un genre de diplôme, un tampon sur du papier. Pourquoi j'ai 30 ans, j'ai encore l'impression que je suis pas prêt. Est-ce que c'est normal? Dis-moi, t'en penses quoi? Si la sonnerie du lycée se mettait à sonner, ça me choquerait pas tant que ça. Je sais pas faire la cuisine, je suis nul en bricolage. Je suis pas du tout dans le mood de faire un enfant ou un mariage. Ça me paraît tellement loin, c'est flou comme un mirage. J'ai l'impression que tout ça c'est renoncer, j'en ai peut-être une mauvaise image. Mon enfant, attends un peu, papa est encore dans le game. Accueillir une vie, c'est faire le deuil d'une partie de la sienne.
Bref, je vais bientôt avoir 30 ans et il va bien falloir que je m'y fasse. Et c'est pour ça que je vous propose de passer à l'épisode 3 de cette série de podcasts, Seulement 30 ans. Dans celui-ci, on va découvrir des témoignages un peu plus optimistes, parce que 30 ans, pour certains, peut être un bel âge de transition pour changer de vie, par exemple.
À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Seulement 30 ans est une série de podcasts réalisée par Alexis Le Corollaire et produite par Radio Campus Besançon. Cet épisode est à retrouver sur campusbesançon.fr.
Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.